Donc bonjour, bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être présente parmi vous. C'est vraiment, j'en suis désolé, mais c'est une grande émotion donc, d'avoir comme ça ce lien entre le Brésil et la France. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça fait de nombreuses années que je travaille sur ce thème que je vais vous présenter. Et donc voilà, j'en suis désolé, mais je suis très ému et donc ça se voit, comme vous pouvez le constater. Donc je suis donc Hélène Hormigosa. Mon nom en langue des signes est ceci. Donc je suis professeur de Libras et je travaille donc sur la didactique et donc sur la langue des signes brésilienne du nord du Brésil. Donc c'est l'essentiel de mon travail. À l'UFPA, donc l'université au nord du Brésil. Alors j'ai choisi de vous faire cette présentation pour une raison particulière que je vais vous expliquer. Donc j'avais réussi un concours en 2009, réussi un concours pour aller à Sours. Saore, dans le nom, langue des signes, celui-ci. Donc, c'est donc au nord du Brésil, une petite région sur une île, sur l'île de Marajó. Et donc, cette petite ville, Saore. Et je me suis rendu en bateau, ce qui m'a pris plusieurs heures. Ensuite, un bus, 30 minutes de bus, pour enfin arriver sur place. Donc le voyage en tout m'a pris 3 heures à peu près. Et, il y avait énormément de personnes sourdes qui m'ont accueilli. Je me suis rendu compte qu'ils avaient chacun des signes un petit peu différents. Et pourtant, nous étions tous du Brésil. Et donc là, me posait la question de savoir s'il fallait corriger leur langue ou si c'était à moi de faire ça, de corriger leur langue des signes qui était différente de celle que je pratiquais. Et donc, je vais vous parler donc, de cet élément-là, à savoir la correction ou pas des variations en langue des signes. Donc, en 2015, avec Ivani Fuselier, nous avons fait un petit travail d'étude, un travail de réflexion qui est très important sur justement les variations linguistiques en langue des signes, en lien avec ma formation de professeur en Libras. Et donc, j'essayais de repérer un petit peu les différentes langues des signes qui étaient présentes dans le nord du Brésil. Et il y avait à l'époque très peu de recherches sociolinguistiques sur cet aspect-là, en tout cas au Brésil. Alors j'avais déjà étudié les recherches d'Ivani Fuselier sur les langues des signes émergentes, donc lu les ouvrages qui avaient été publiés à ce sujet. Et donc là, je souhaiterais vous montrer différentes variations linguistiques donc des langues des signes au Brésil. Et j'ai choisi trois éléments à vous présenter, donc trois variations. Donc des langues émergentes, des langues des signes de petites communautés et de plus grandes communautés. Par rapport aux langues émergentes, d'abord, je vais un peu vous définir ce que cela signifie. Il y a donc 95% des personnes sourdes qui naissent de familles entendantes. Et donc, ces familles ont l'habitude d'échanger avec leur enfant sourd à l'oral. Et donc, effectivement, ils finissent par créer des codes un peu familiaux, des codes qui, petit à petit, s'enrichissent en fonction des besoins de communication. Donc, c'est ce qu'on appelle les langues des signes émergentes. Ensuite, par rapport aux petites communautés, ce sont en fait plusieurs personnes qui ont chacune une langue des signes émergente qui, se rencontrant, créent une langue des signes dite de petite communauté. Voilà. Donc, c'est, bien sûr, ces personnes sourdes, quand elles se rencontrent, elles n'ont pas la même langue des signes, mais en échangeant entre elles, elles créent comme ça une langue un peu plus partagée. Et ensuite, on parle de grandes communautés quand, en fait, les enfants se retrouvent scolarisés dans un même lieu. Et donc, on a, à ce moment-là, de plus encore de langues qui se confrontent et qui s'enrichissent les unes les autres pour devenir une langue des signes d'une communauté plus grande. Donc, par rapport à mes recherches, la réflexion, au départ, était, suite à mon statut de professeur de langue des signes, de réfléchir sur ces variantes. Et donc d'avoir une vision comme ça des personnes qui les utilisent, qui utilisent au quotidien leur langue des signes et les variantes, et ensuite de pouvoir ou pas les utiliser dans un point de vue plus didactique. Donc pour faire tout ce travail, je me suis intéressé aux différentes recherches qui se sont passées précédemment, donc sur l'origine des langues des signes émergentes. Bien sûr, la sociolinguistique de la langue des signes française, les normes, les différentes normes et les différentes diglossies qui peuvent exister. J'ai aussi participé à différents séminaires organisés par l'Université de Paris 8 sur le thème de la didactique. Donc là, je vous présente la théorie, une des théories donc, de grande iconicité et l'évolution de son utilisation en fonction de l'âge des locuteurs dans les différentes communautés, donc pour les langues émergentes, utilisées dans les petites communautés et dans les grandes communautés. Sur l'île de Fortalezing. Après, on vous en expliquera une autre personne vous fera un détail, une explication plus détaillée de cet élément-là. Donc, on parlait de grandes communautés de langue des signes, soit en Libras, soit en LSF, etc. Alors, je vous présente de petits exemples de variations linguistiques dont je vous parlais. Donc, sur l'île de Marajo, petit exemple donc par rapport à la langue des signes française, c'est partir. En LSF, on fait partir comme ceci. Inès. Inès, qui est infirmière donc à l'école spécialisée à Rio, pardon. Excusez-moi, l'interprète a fait une erreur. Inès, qui est donc sur la ville de Rio de Janeiro, et sur la ville de Belém, en fait, ils utilisent. Excusez-moi, il y a un problème d'interprétation. Madame va reprendre. Donc, par rapport aux variations linguistiques, donc un petit exemple sur l'île de Marajo. Donc, vous présentez l'exemple donc par rapport au signe partir. Et on a pris un dictionnaire Rio, oui. Par rapport à Rio, une école spécialisée qui, donc le nom langue des signes est ceci, Inès, ok, l'Institut national des jeunes sourds à Rio. Et donc, ils font le signe partir comme ceci. Voilà, donc en croisant un petit peu l'index et le pouce. Et Asure, ils font le signe comme ceci. Vous voyez ? Comme un avion qui décolle, on va dire. Et un autre exemple par rapport à des variations, donc en partant de la langue des signes française, le football, comme on fait comme ceci, hein, tout le monde connaît, le football en LSF. Voilà, c'est assez clair. Donc, il peut être fait comme ceci, en Libras, donc. Et sur l'île Asure, ils le font comme ceci. Alors, excusez-moi, de temps en temps, je rebascule vers la Libras. Donc, par rapport à la méthode de travail, donc, j'ai créé des corpus pour justement pouvoir étudier les variations linguistiques. Et donc, en travaillant, comme je vous l'ai dit, par rapport donc, aux langues émergentes, aux langues utilisées dans les petites communautés et langues utilisées dans les plus grandes communautés, et je vais vous montrer un exemple de corpus qui a été créé par Louisette au départ, qui a fait donc toutes les captations, puisque nous avons travaillé ensemble sur cette création de corpus au niveau de Souré. Donc ça a été fait en 2015, plusieurs sourds, professeurs sourds, qui ont donc fait ces différentes captations sur des échanges. Sur des personnes ont essayé d'avoir quelques critères pour pouvoir approfondir effectivement les différents éléments qui nous intéressaient et avoir différents styles de locuteurs. Nous avons essayé de cadrer un petit peu comme ça notre travail de recherche. Donc nous avons recueilli un grand nombre, nous avons fait un grand nombre de captations, donc qui représentent 8 heures, plus de 8 heures, presque 9 heures de captation, avec des échanges aussi qui se passaient à distance, puisque on était, donc moi en France, et puis les personnes au Brésil, donc il faut savoir qu'il y a 5 heures de décalage horaire. Mais on a quand même eu ces échanges à distance par le biais de Skype ou d'éléments de communication à distance. Avec aussi des interprétations et des traductions, tous les éléments qui ont été recueillis. Alors j'essaie de vous montrer là sur cet élément d'où venaient toutes les personnes que nous avons pu enregistrer. Il y avait en tout 14 professeurs donc sourds de langue des signes, dont plusieurs viennent du Nord. Donc c'est tout ce que vous voyez sur la région qui est noté A. Après, il y a donc en B à l'Est, C Sud-Est, D le Sud. Au niveau des personnes qui étaient au Nord, donc il y avait 5 différents professeurs. Dans le Nord-Est, il y avait 3 professeurs. Au Sud-Est, 3 aussi. Et au Sud-Sud, 3 autres professeurs. Donc peut-être que ça peut vous surprendre de voir l'élément qui est en bleu, que vous pouvez voir en bleu là. C'est donc en fait la capitale. Et en noir, des personnes qui habitaient plutôt en province, comme on dit, ou dans des plus petites villes. Voilà. C'est la manière dont j'ai noté les différentes personnes que j'ai filmées. Donc, comme pour le corpus, comme je disais, il y a plus de 8 heures d'enregistrement. J'ai bien sûr fait des petites sélections pour vous projeter des exemples. Donc, ce sont des éléments qui ont été captés, comme je vous l'ai dit, en 2015. Donc les corpus ont été traduits en français. Et les différents professeurs, j'ai choisi différents professeurs qui étaient plutôt à l'aise et qui avaient un niveau plutôt correct pour ne pas être discriminante. Et essayer de voir un petit peu leurs différents signes, par exemple. Essayer de retrouver des éléments avec des signes différents, mais qui représentent un sens identique. Et repérer aussi des moments où les professeurs en fait, corrigeaient certaines expressions de personnes sourdes par rapport à une langue des signes plus standardisée. Il y avait une espèce de correction comme ça de la langue que les personnes utilisaient, ce qui peut être assez frustrant et discriminant pour ces locuteurs qui s'exprimaient de manière naturelle. Alors, excusez-moi, apparemment, on me met une contrainte de temps. Donc là, de la même manière, ce que j'essayais de vous présenter, c'est en fonction des différentes régions. Un manque des fois de connaissances aussi sur les différents types dans les trois différents types de variations qu'on peut retrouver donc dans les langues émergentes, petites communautés et grandes communautés. Quand en fait le professeur utilise la dactylologie, en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas compréhensible pour une majorité des sourds qui ne sont pas du tout dans l'écrit et donc dans la correspondance langue vocale, langue des signes. Donc, il y a quand même des normes qui sont utilisées au niveau de la Libras. Et on se rend compte que dans les plus grandes villes, il y a une forme de culture qui existe. Et qui n'est pas forcément reprise dans les régions plus petites ou dans les lieux plus petits, et donc d'autant plus dans les langues des signes émergentes ou dans les langues des signes de petites communautés. Et c'est aussi cette réflexion à avoir sur l'importance et l'origine de la création des langues des signes émergentes ou des langues des signes dans les petites communautés pour la didactique et donc l'enseignement, l'apprentissage de la langue des signes. Voilà, donc là je vous affiche les références bibliographiques que j'ai utilisées pour tout mon travail et je vous remercie grandement.
Boa tarde à tous et à toutes.
Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, c'est un plaisir d'avoir l'occasion de rencontrer les gens qui sont ici présents. Déjà en 2016, certaines des personnes ici présentes sont venues au Brésil, au Pará, lors de ces rencontres France-Brésil, donc c'est un plaisir aussi de les revoir. Notamment Madame Ivani. C'est quelqu'un qui recherche toujours dans le domaine des langues des signes émergentes. Donc, ma présentation d'aujourd'hui porte sur ma thèse de doctorat. Ma directrice de recherche est ici, présente également, et nous avons organisé ce travail conjointement. Donc, mon travail porte sur la cartographie des langues des signes émergentes, ainsi que sur le cas de communautés isolées que l'on peut trouver sur le territoire brésilien. Vous savez sans doute que la linguistique travaille avec la reconnaissance du droit linguistique en tant que droit humain. Et De nombreux signes ont été oubliés dans ces documents. Souvent, la langue des signes n'est pas mise en valeur dans le cadre de cette reconnaissance des langues en général. Les langues oralisées sont beaucoup plus mises en valeur. Au Brésil, nous avons plus de 222 langues qui sont parlées. Et nous avons près de 180 langues indigènes. Trois langues des signes et 40 langues d'immigrés. Cela veut clairement dire que le Brésil est un pays extrêmement diversifié, un pays qui possède plusieurs langues. Alors pourquoi traiter cette question? Pourquoi est-il si important d'établir une cartographie de ces signes émergents? Comment faire le recueil de ces signes? Comment travailler avec ces personnes, avec les sourds, avec ces peuples? Reconnaître ces groupes, cette diversité culturelle, linguistique qui est si grande au Brésil. La majorité des personnes pensent qu'avec la loi 10.4.3.6, tout était déjà fait. La simple mise en valeur de la langue des signes brésilienne suffisait. Mais nous pouvons voir qu'il faut également traiter de la question des langues des signes qui n'ont pas été enregistrées, qui sont inconnues en général. Et il faut surtout que ces langues soient enregistrées pour que nous ne les perdions pas. Donc l'objectif est justement d'établir une cartographie de ces langues des signes émergentes et analyser leur point de départ, leur origine, comment elles se sont développées, et aider aussi les personnes à reconnaître qu'il n'existe pas une simple langue des signes, mais qu'au contraire, il y a une forte diversité en langue des signes au Brésil. Le Brésil est un pays continental. Nous avons, comme je le disais, 40 langues d'immigrés. Donc imaginez dans ces contextes la richesse linguistique qui peut survenir. Combien de langues des signes émergentes pouvons-nous comptabiliser dans ce contexte? Et ces langues doivent être enregistrées. Le professeur Roni, c'est Narciso Leite, on publie un article sur la langue des signes au Brésil. Pendant très longtemps, nous nous sommes uniquement penchés sur le Libras. Mais quant aux autres langues, celles qui sont menacées d'extinction, qu'en est-il? Il existe des écoles pour les peuples autochtones, pour les sourds. Il faut intégrer la langue des signes dans ces enseignements spécifiques pour que ces locuteurs puissent également acquérir ces langues de façon naturelle, pour que ces langues ne courent pas le risque de ne plus avoir de locuteurs à l'avenir et de disparaître. Certains chercheurs disent que ces langues des signes émergentes consistent en des gestes qui sont uniquement effectués à la maison. Ces langues n'ont pas de structure, il s'agit de gestes familiers, mais ce n'est pas vrai. Nous trouvons effectivement beaucoup de structures, même au sein de ces gestes familiers, pratiqués au sein de la famille. Dans de nombreuses communautés sur lesquelles je me suis penchée, notamment dans la région du Ceará, au Brésil, qui est nommée de Várzea Alegre. Donc, Nous nous sommes rendus dans ces communautés pour savoir quel était le signe pour l'année. J'y ai été avec mon époux qui est sourd. Et ils discutaient là-bas avec les gens. Nous nous sommes rendus auprès de ces communautés l'année dernière. Et une des femmes sourdes de la communauté a vu mon époux. Elle m'a dit « Ah, cela fait longtemps, cela fait 4 ans que vous n'étiez pas venu. » Mais elle a utilisé le signe de la pluie pour dire « année ». Comme si elle disait « cela faisait 4 pluies que vous n'étiez pas venu ». Donc là, on voit qu'il y a effectivement l'émergence d'un système qui n'a pas l'affluence de la langue orale ni de la Libras. Et puis, les gens disent souvent, il s'agit d'une micro-langue, c'est une langue de famille, mais nous savons que ces langues ont une structure, même dans ces contextes plus restreints. Nous sommes en train de développer des recherches qui nous permettent de nous pencher sur ces langues émergentes. On parlait de signes familiers. Et maintenant, nous sommes en train de créer toute une terminologie pour pouvoir discuter de la question. Au Brésil, je vous ai dit que nous avions 3 langues des signes. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Les langues des signes des centres urbains, les langues autochtones, la langue des Urubu, Kapo est assez connue, par exemple. Et nous avons également une autre langue des signes émergente, la Sena. Donc je travaille avec le professeur Ronis justement pour établir une cartographie de ces différentes langues. La professeure Chili Villava a également réalisé des recherches pour parler de ces langues en contexte indigène, autochtone. Donc, on peut voir le degré de variation, de diversité des langues des signes au Brésil. Il faut à tout prix les enregistrer, puisqu'elles ne disparaissent pas. Maintenant, quelle est notre méthodologie ? Nous faisons un recueil de données, nous faisons des recherches également au travers de thèses. Toujours des recherches qui ont un socle théorique, scientifique. Mais nous avons vu qu'il y avait peu de travaux dans le domaine linguistique. Il y a surtout des travaux dans le domaine de l'éducation. Alors, à quelle conclusion sommes-nous arrivés ? Nous proposons donc une typologie d'environ 7 langues des signes, les langues autochtones, celles des centres urbains, celles des îles, celles des villages, celles des zones rurales. Et maintenant, nous avons une nouvelle proposition également de Almeida et Sosa pour les zones les plus reculées, les zones isolées. Donc ici, vous pouvez voir des références aux différentes recherches qui ont été réalisées et auxquelles vous pourrez accéder si vous vous intéressez à ces questions. Sur cette carte, vous pouvez voir les 12 langues des signes qui ont été trouvées et cartographiées sur l'ensemble du territoire brésilien. Et ici, vous avez les couleurs qui correspondent aux différentes communautés. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré Marcus qui vient de Manaus. Et il m'a parlé d'une autre langue des signes que je ne connaissais pas. Je lui parlais lors de la séance de poster et maintenant nous pourrons certainement faire le registre de cette nouvelle langue. D'où l'importance de cette cartographie. Donc pour conclure, il faut faire ce registre linguistique, il faut mettre en valeur les langues des signes. Et en constatant cette diversité, nous pouvons mettre en relief justement la grande diversité de cet univers. Il est également important d'intégrer les autres langues des signes dans ces communautés. Quelle est la valeur, quelle est l'importance de ces langues? L'importance pour les sourds, pour ceux qui utilisent ces langues, est vitale. La reconnaissance de cette diversité linguistique et de cette diversité de structures, la légitimité des langues des signes dans toutes ses formes, est très importante. Alors, quelles sont les prochaines étapes à l'avenir? Je vais certainement bientôt conclure ma recherche en décrivant les différents niveaux phonologiques et morphologiques des différentes langues des signes. Et nous comptons également avec le travail de Li Fan, qui fait donc le registre du patrimoine immatériel de ces langues. Et nous avons également l'intention de mettre en place un dictionnaire de ces langues des signes émergentes. Si cela vous intéresse, nous avons publié un article dans ce livre que vous pouvez voir derrière, Communauté sourde en Amérique latine. Je vous remercie de votre attention. Et ici, vous pouvez voir dans cette image les sourds de la communauté Sena, donc de cette langue des signes émergente. Tous sourient. Pourquoi? Eh bien, parce que nous les mettons en valeur. Nous mettons en valeur leur langue. Et c'est pour cela que nous sommes si heureux. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais demander pardon pour notre retard. Nous sommes perdus un petit peu dans le RER et vous remercier pour cette invitation, de vous remercier de cette occasion d'être ici présente, ce qui veut dire, ce qui signifie beaucoup pour nous à l'UFPA. Et vous remercier également pour ces personnes, les personnes donc Hélène, Dina, hein, qui et toutes les contributions qui ont été données pendant cet événement. Ma proposition qui sera donnée aujourd'hui, donc c'est une partie initiale dans ma thèse de doctorat et ma doctorat en études linguistiques dans mon université, l'Université fédérale du Pará. Et mon professeur d'orientation au Brésil est Marie-Lucia Oliveira. Ma ligne de recherche est de l'analyse de description et donc d'analyse dans ce qui concerne effectivement toute la langue des signes. Alors voilà, donc tout ceci est fait en partenariat avec Paris 8 et mon orientatrice est Madame Salandra, et au Brésil et en France Madame Ivani Fuseli. Voilà. Voici le cadre de mon travail. Alors, c'est un travail qui a une contribution, très, très grande contribution de deux instituts qui sont fondamentaux pour la réalisation de cette recherche. Donc, Idéflore Bio, hein, la recherche qui a été faite donc, est dans un domaine de protection environnementale. Alors, étant donné qu'elle appartient à la protection de l'environnement, il est indispensable de pouvoir développer cette recherche dans ce domaine. Voilà, c'est important parce que nous mettons en valeur donc l'instance de gestion, mais également la contribution de cette instance pour la protection de cette région. D'accord. Alors, le but de ma thèse est d'analyser les processus de construction et de circulation de la langue des signes dans la micro-communautaire de sourds, donc dans la ville de Fortalezinha, qui est une ville qui est située dans l'île de Ogudá Mayandeu, qui est à Belém, Pará. et qui a comme objet d'étude les récits de ces personnes sourdes. Alors, cette recherche a commencé avec une ouverture de terrain donc, qui a commencé en 2014, qui a été débutée par Louisette et donc par ses deux professeurs. Et j'ai eu ce premier contact avec cette communauté en 2015. J'avais terminé donc mes études et mon diplôme, et dans mon thèse, c'était effectivement de les personnes qui travaillaient dans le cimetière de Berlin. Donc, j'ai appliqué la linguistique dans ce domaine parce que pourquoi travailler avec ces personnes? J'ai un ami qui dit à l'université, il dit que je mets en valeur naturellement les personnes qui sont stigmatisées. Hein. C'est quelque chose que je fais naturellement. Alors, l'idée, c'était de faire des recherches, d'effectuer, de voir un petit peu quelles étaient l'image de ces personnes, ce qu'elles projetaient. Hein. Nous pensons toujours que ce sont des personnes qui travaillent dans les cimetières, qui creusent des tombes tous les jours et qui ne sont pas mises en valeur. Alors, ma recherche était différente. S'il n'y a pas de formation pour ces personnes qui travaillent dans les cimetières, qu'est-ce qu'une personne fait pour être travaillée dans un cimetière? Alors, à partir de cette recherche, de ma recherche, je me suis penchée sur la question du silence. La silence, effectivement, un point très important. Alors, en 2015, j'ai connu mon professeur, Madame Ivani, qui m'a posé des questions sur ma recherche. Elle m'a dit, mais est-ce que vous avez cherché toute la partie du corps, les expressions corporelles, faciales? Je lui ai dit, non, je n'ai pas eu le temps parce que j'analyse la conversation. Alors, donc, elles m'ont présenté la ville de Fortaleza. Je suis promenée dans la ville et lorsque j'ai rencontré ces personnes sourdes, quelles étaient les histoires que ces personnes pourraient raconter si elles pouvaient être entendues? Alors voilà, effectivement, le point de départ de ma recherche. Hein. Voilà, c'était effectivement là. Et des objectifs étaient d'enregistrer ces récits, d'écrire cette langue et par description, nous comprenons tous les aspects formaux, de narratives, de récits qui sont multiples. Alors, la description de la langue, qui est une description globale. Alors, j'ai déjà réalisé ma qualification le 24 octobre passé, juste avant de venir. Et le texte pour donc ma qualification avait 325 pages. D'accord? Donc, mon orientatrice, ma directrice de thèse m'a dit que ce n'était pas possible d'apporter 320 pages. Elle m'a prise pour une folle et qu'elle me retire. Elle m'a demandé au moins de retirer 220 pages. Donc, on a effectivement un travail général, très global. Donc, comme madame, donc mon professeur, nous avons adopté une méthode d'analyse qui est semi-manuelle, d'accord? Nous avons décidé de créer notre grille de prescription. Les programmes nous aident beaucoup, mais lorsque l'on a des objectifs spécifiques, disons que le fait de créer notre propre grille de transcription peut nous aider plus au moment de faire la transcription, parce que nous pouvons réellement articuler, disons, ces paramètres en accord avec ce que l'on veut, ce que l'on attend. Les paramètres, ils ne sont pas rigides, ils ne sont pas figés. Donc, on a une mobilité plus grande afin de mobiliser. D'accord? Alors, en outre, il fallait mobiliser l'aspect de l'isolement. Alors, je fais une thèse sur la sociolinguistique et la théorie en sociolinguistique. Nous avons une théorie de réseau. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on veut dire par réseau? Et on a une théorie de communauté de langage. Hein. Nous avons fait des recherches. Nous utilisons également la pratique des réseaux comme instrument, outil sociolinguistique. Et alors, quels sont les liens qui sont créés dans cette communauté? Comment ces liens se tissent? Notamment, comment ces liens contribuent au renforcement de cette densité linguistique, de cette communauté? D'accord? Et alors, nous avons visé à établir les routines, comme, voilà, quelles étaient la routine de ces personnes sourdes? Quelles sont les personnes avec lesquelles elles discutaient le plus? Comment cette langue se conduit? Alors, en analysant ses habitudes, l'un des objectifs de la thèse est de créer un documentaire. Hein, nous avons déjà un premier teaser. Hein, le nom du documentaire va être le titre. Ce sont des narratives en silence. C'est le titre de ma thèse et du documentaire, afin de contribuer également à augmenter un petit peu, à enrichir les débats académiques qui sont déjà réalisés, qui ont lieu par rapport à la surdité, la sensibilité, l'éducation d'une façon générale. D'accord? Alors, l'encadrement théorique, nous avons également un premier cadre théorique qui est effectivement la sociolinguistique va de l'ABOV. Nous avons également la diachronie, mais également la synchronie pour expliquer, afin d'expliquer comment cette langue comment elle se met en mouvement, d'accord? Et nous travaillons également avec les variations, les variantes, les pratiques sociales, étant donné que nous créons un inventaire, nous avons créé un inventaire, tout un lexique, le premier inventaire lexical de ces langues, quels sont les termes qui sont les plus pertinents, pourquoi ils se répètent, quelle est la récurrence dans cette langue, et évidemment, pour la description linguistique, nous avons effectivement la contribution du professeur Cuxac, par exemple, là, c'est donc la langue des signes, les langues des signes émergentes et toutes les catégorisations, les catégories proposées par Madame Salandra, le professeur Salandra, en ce qui concerne les transferts, transferts de forme, transferts de taille également, et les définitions de réseaux et de pratiques sociales au Brésil qui sont proposées par donc également le professeur Ricardo. Et alors, donc nous avons une petite ville, Mayandéu, donc qui est une île brésilienne, hein, Mayandéu, dans la municipalité de Maracanã. C'est une ville qui est située dans une île. Alors, dans cette île, nous avons trois villes, d'accord? Et dans la ville de Fortalezinha est la deuxième plus grande ville. Alors, nous avons une population de 600 habitants. Voici la carte pour que vous vous situiez un petit peu Fortalezinha. Nous avons Algodoa, qui est très connu. Hein, c'est ce qui est vendu parce que c'est un paradis touristique. Ensuite, nous avons Cambuinha, Fortalezinha et Mancoaca, qui sont des villes incroyables, paradisiaques, cartes postales. Alors, nous avons ici, donc c'est M. Manuel, nous appelons donc le leader communautaire de cette ville, qui est le président de l'Institut culturel, où on a développé toutes ces collectes de données. La méthodologie, alors nous travaillons donc avec une recherche participative. C'est depuis 2015 que ce contact a été établi. Elle a été réalisée pendant un an, hein, ce contact avec cette communauté. Et comme sociolinguiste et comme être humain, nous valorisons, nous mettons en valeur la recherche participative, étant donné que nous pensons qu'elle est très importante pour établir les contacts avec cette communauté. Je trouve que c'est vraiment pas très positif. Ce n'est pas très positif de faire une recherche de prédiction, de filmer des gens sans autorisation, sans contact, sans établir de relations de confiance. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on établit hein, depuis 2014 avec l'ouverture, le travail de terrain avec les professeurs Ivani, etc. Et c'était très important pour réaliser cette recherche. Nous avons adopté les protocoles de socio-anthropologie, ethnographie également. Nous avons une description sur le terrain qui est très dense, une description de cette communauté qui est très, très riche, de tous les aspects de santé, éducation, les relations sociales. Alors, pourquoi faire effectivement un inventaire de ces termes? Parce que ce sont des termes qui vont orienter tous les récits. Hein. Ces sourds, de quoi parlent-ils? Ils parlent de leur pratique sociale. Par conséquent, quelles sont les pratiques développées? Pourquoi ces termes sont récurrents? Voilà. Alors, nous utilisons comme stratégie la collecte de données. Nous utilisons trois types, hein, qui sont les mêmes qui sont adoptés par Madame Ivani, les récits libres, directionnés et semi-directionnés. D'accord? Alors, nous travaillons, notre corpus est constitué de 49 registres. Hein. Au début, nous avions 61 et après, nous avons fait effectivement un premier échantillon, nous en avons 49. Donc, 10 sourds, hein, 10 personnes sourdes qui composent, qui constituent cette communauté. et 13 entendants. Alors, pourquoi faire une recherche auprès d'entendants? Parce que nous travaillons auprès de réseaux sociaux. Je travaille avec des liens, non seulement, et ne nous intéresse pas seulement de savoir comment une personne sourde se conduit chez elle depuis l'enfance. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Donc, on sait, on leur demande comment avez-vous découvert que votre mère était sourde, un enfant qui est entendant. Alors, ils nous racontent, effectivement, tout ce travail de lien, hein, de réseau entre ces personnes entendantes et cette communauté de sourds. Alors, nous avons donc des personnes qui vont de 30 à 65 ans, hein, donc 23 collaborateurs compose cette communauté. Et quelque chose qui fait la différence déjà depuis 2004 avec donc la recherche de Mme Evani, hein, d'après le professeur, c'est la façon des caméras, la disposition de ces caméras et le nombre d'entendants. Hein. Donc le professeur Evani travaillait déjà avec 3 sourds, hein, 3 collaborateurs qui étaient sourds. Nous travaillons avec 23 collaborateurs. C'est 23 collaborateurs. Alors, on en a 10 sourds, hein, dans le même champ de vision d'une caméra. C'est comme 10 personnes qui, 10 entendants qui parlent en même temps. Alors, il y a un travail pour utiliser beaucoup de caméras. Non satisfaits de cela, nous avons placé ces sourds dans le même champ de vision. On a des vidéos, on va de 14 à 15 personnes. On a un travail vraiment très, très grand afin de choisir un petit peu, faire une sélection de ces signes et de ces vidéos. Pour terminer, puisque j'essaie de me dépêcher, pour terminer, je disais, une fois un ami m'a demandé quel était, alors pourquoi je faisais cette recherche. Alors il me dit, mais pourquoi faire cette recherche? Parce qu'on veut toujours quelque chose en faisant une recherche. Quel est ton but final? Pourquoi défendre cette langue? Parce que je parle également de politique linguistique, hein. Il faut en parler, surtout lorsqu'on parle de surdité, la sensibilité d'inclusion. Et je lui ai répondu à cet ami qu'au début, alors je vais réfléchir un petit peu avant de te donner une réponse. Alors après, je lui ai dit, une fois, j'ai lu un texte de Miyakoto où il nous dit que lorsque vous parlez une langue qui ne te parle pas, hein, lorsque tu parles une langue qui ne te parle pas, hein, ou tu ne te reconnais pas dans cette langue, c'est comme si, même si tu parlais, même si tu étais entendant, tu vivais dans le silence, d'accord? Et moi, j'ai trouvé vraiment que ce que l'on recherche avec... Ce que l'on cherche vraiment, c'est que de faire en sorte que ces sourds aient la liberté d'utiliser la langue qu'ils veulent. Hein. Donc, effectivement, de parler la langue qu'eux utilisent, c'est un trait identitaire. Et si les gens qui sont partout à Paris ou n'importe où, s'ils veulent connaître et entrer en contact avec ces sourds, je pense qu'ils auront un grand privilège et je pense que nous apprendrons beaucoup plus avec eux. Ils ont beaucoup plus à nous apprendre. Alors, je veux qu'ils connaissent un monde en utilisant, en ayant recours à leur langue, à la langue qu'ils parlent et que le monde les connaisse. Je pense que c'est extrêmement important lorsque l'on parle de la langue des signes et lorsque l'on parle d'inclusion et de cette sensibiliser donc à la défense d'une société plus plurielle, une langue plus diverse où tout ceci puisse être accepté. Merci beaucoup.
Merci, Madame Chagas. Maintenant, nous allons... Boa tarde a todos e todas.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous félicite pour vos présentations. J'ai beaucoup apprécié vous entendre. J'aimerais donc poser une question à la personne qui a parlé de Fortalezinha dans le Para. Le contenu est très intéressant. Votre thèse de doctorat et le corpus que vous collectez est très intéressant aussi. Mais en ce moment, il y a des débats au sein de la communauté sourde sur la langue et le devenir de la langue des signes. Il y a beaucoup de débats sur ces questions. Et aussi, comment changer les stéréotypes qui existent sur les sourds? Comment faire comprendre aux gens qu'il s'agit de ma langue, de ma culture? Dans votre thèse, vous parlez d'une mise en silence de cet aspect, car le sourd ne vit pas dans un monde de silence. Alors, quelle est cette mouvance? Comment faire comprendre que c'est une langue de lutte, d'identité, de mise en valeur? Nous ne vivons pas dans le silence. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez parlé de silence dans votre approche? Parce qu'on dirait que nous n'avons pas de visibilité. Il faut continuer à respecter le fait qu'il faille faire connaître notre culture. Donc, peut-être faudrait-il changer ce mot de silence dans votre thèse, parce qu'il me semble que ce mot de silence recrée constamment ces mêmes modèles, ces mêmes stéréotypes qui sont déjà présents et contribue à ce discours hégémonique de l'entendant sur le sourd. Donc, ce n'est pas une représentation du peuple sourd. Ce n'est pas ce qui nous représente le plus, vivre dans un univers silencieux. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez parlé de cet aspect-là. S'agit-il d'une provocation? Est-ce que j'ai été claire? Oui, cette question des récits en silence... Cette question des récits silencieux part d'une réflexion théorique que nous proposons dans notre thèse. Et nous travaillons beaucoup avec l'anthropologie, nous travaillons avec Michel Foucault, et donc ce que nous disons dans notre thèse est que cette matérialité, cet appareil formel du langage de l'entendant, nous proposons donc que cet appareil formel, langagier des sourds, soit le corps. Foucault parle déjà du corps. Et il dit qu'avant d'établir une architecture du langage, il faut faire une architecture du corps. Donc cette mise en silence, nous l'utilisons pour corroborer cette approche théorique. Et pour réitérer ce socle théorique, à savoir que cette mise en silence, ce passage sous silence de ces récits qui apparemment sont silencieux, sont au contraire produits au travers du corps, à savoir que du point de vue organique, c'est le corps qui nous fournit nos outils. Et Foucault le dit aussi. Donc il y a une approche théorique du langage. Mais pour ce faire, il faut faire une architecture, une archéologie du corps. Et c'est pour cela que nous avons donc nommé notre approche, ou de l'approche de ces récits, de récits passés sous silence ou de récits silencieux, en faisant ici référence au corps en tant qu'outil. Mais je ne fais pas ici référence à la question du silence, du sourd, de ce stéréotype, de la langue silencieuse. Bien au contraire, il faut défendre des politiques linguistiques qui respectent, du point de vue géographique, car lorsque vous parlez de politique linguistique, il faut également délimiter les champs géographiques où la langue a lieu, mais il faut également établir une cartographie, une délimitation du corps comme lieu de production. Encore aujourd'hui, il y a tout un débat, notamment dans les universités brésiliennes, entre autres, sur la réhabilitation de cette langue corporelle en tant que corps, comment recevoir ces élèves qui sont sourds et comment réitérer cette matérialité du corps du sourd.